Docteur Daniel Olive, je suis psychiatre, psychanalyste, et en tant que directrice du BAPU, du Bureau d'aide psychologique universitaire de Rennes, qu'on a mis en place une permanence téléphonique en coordination avec le SSE, qui est le service santé étudiant de l'université de Rennes, et le CAGR, qui a des infirmiers qui interviennent, des infirmiers en psychiatrie, qui interviennent dans le cadre du SSE. Et donc, dans ce contexte, il nous est apparu que mettre en place un dispositif d'accueil téléphonique pour ceux qui se sentiraient en difficulté dans cette période très particulière était approprié.
Vous êtes vous aussi, comme tout le monde, confiné, mais vos missions ne s'arrêtent pas, bien au contraire. Qu'est-ce qui pousse les gens à vous appeler? C'est quoi? C'est la peur de la suite, de comment va se terminer tout ça? La peur de se faire contaminer? La peur aussi peut-être de contaminer les autres?
Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, même s'ils ne se sentent pas menacés physiquement, des étudiants encaissent aussi le choc qui est lié à la suspension de toutes leurs activités et au bouleversement de ce qui fait leur monde. Et il y a la circulation de nouvelles qui les inquiète. Et en même temps, ils trouvent des ressorts, ils découvrent des ressorts qu'ils n'imaginaient pas eux-mêmes pour faire face à la situation. Donc c'est à la fois une période qui est très bouleversante, mais aussi qui est source de découvertes, de surprises, de créativité. Il y a une grande ébullition en fait. Il y a un versant à la fois d'excitation d'un côté, de dépression de l'autre, de bouleversement. Et on est déjà un petit peu dans un temps second parce que dans un premier temps, il y a eu beaucoup un sentiment d'irréalité, de perturbation des repères, de perte des repères, de troubles de la concentration, etc. Puis voilà, on est dans un mouvement où chacun cherche à s'organiser, à faire face à la situation. Alors eux, ils ont eu affaire à des décisions d'abord, de savoir avec qui ils allaient se confiner, avec la famille, avec des amis, avec le copain, la copine. Et donc, c'est un peu compliqué parce que c'est un âge où, justement, c'est le moment de se séparer et où plusieurs sont dans ce mouvement-là. Et hop, rentrer à la maison, il n'y a pas toujours de place pour eux. C'est un peu contre nature. Bon, heureusement, c'est transitoire. Mais bon, ça crée quand même des problèmes où ça précipite le fait de se retrouver en couple alors que c'était pas encore le moment tout à fait, enfin voilà. Où ça confronte aussi au type de lien à l'autre. Ça met un peu, c'est une sorte d'heure de vérité sur sa façon d'être en lien avec les autres, même si aussi beaucoup ont des surprises finalement sur ils se croyaient plus isolés qu'ils ne l'étaient, en fait.
J'imagine qu'il y a aussi des étudiants qui font face à la solitude, qui n'ont pas pu être confinés avec d'autres personnes et qui se retrouvent donc seuls.
Oui, tout à fait. En particulier les étudiants étrangers qui se retrouvent souvent dans des chambres, dans des petites chambres, certains avec simplement un Velux, sans même une vue sur l'extérieur, dans un tout petit endroit. Par exemple, qui peuvent être musiciens dans des études de musique, qui peuvent pas jouer de leur instrument, peur de déranger leurs voisins. Enfin, oui, il y a des situations vraiment où le confinement est très rude. Et où je me dis que pour ceux-là qui sont dans qui ont un double éloignement familial, plus le groupe d'amis qui est pas encore constitué. Garder le lien avec eux, c'est vraiment, ou permettre qu'il y ait un lien, c'est vraiment important. Ça crée une tension, parce que la première chose à laquelle sont un peu les témoignages qu'on a, c'est après une perte de repère, c'est se reconstruire des habitudes. Et donc, j'avais une phrase que j'aime bien, qui circule sur les réseaux sociaux, qui est une phrase de Camus au début de la peste, et qui dit « Mais on passe ses journées sans difficulté, aussitôt qu'on a des habitudes. » Donc, il y a à reconstruire un emploi du temps, des repères, et à se retrouver finalement. Il y a un afflux d'informations aussi. et donc retrouver une façon de pouvoir faire un peu de coupure par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Bon, à la fois, il y a l'isolement, mais à la fois, il y a l'afflux d'informations. Comment retrouver ce qui est important pour soi et dans quoi on se sent bien et qui fait que ça ne bouleverse pas tout son monde et qui, de façon à retrouver qui sort de l'angoisse, c'est de retrouver une capacité de s'investir, d'agir, de s'investir en rapport avec la situation, faire des signes aux autres, créer des initiatives, mais aussi retrouver un lien à ce qui est important, les études pour certains, un hobby pour d'autres. C'est vraiment retrouver une capacité d'agir. Le premier sentiment, c'est il n'y a pas de prise sur la situation. On est un peu passif vis-à-vis de ça. Et donc, retrouver une capacité d'agir, c'est reprendre sa vie en main, c'est important.
Le caractère inédit aussi de la situation est à prendre en compte, je pense, dans tout ça.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un double mouvement à ce propos, parce que quand c'est inédit, quand ça fait vraiment irruption comme ça, c'était inimaginable que tout s'arrête de cette façon. Il y a une première façon qui est d'essayer de faire rentrer ça dans du connu. Oui, mais finalement, c'était prévisible. On le savait, au fond, que ça pouvait arriver, etc. Il y a une façon d'essayer de rendre ça connu, alors que c'est inconnu. Et puis, il y a à garder un peu en même temps la dimension de trauma, parce que la dimension de trauma, ça déstabilise, bien sûr. Et là, il faut répondre à ça. Mais c'est aussi une source de création, de nouveau, de choses qu'on n'imaginait pas, de découvertes. Et ça, on a ces témoignages-là. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient, pour des étudiants très confinés jusque-là, justement, ceux qui étaient très, qui avaient des experts en confinement avant l'heure, eh ben, ils découvrent qu'ils ont un savoir-faire, qu'ils peuvent transmettre à d'autres. Enfin, il y a donc des trouvailles qui se font, qui sont importantes. Mais alors, si j'ai quelque chose à transmettre, c'est que dans ce temps suspendu, il y a aussi, si ça permet de se recentrer sur ce qui est important, il y a aussi un mouvement qui est peut-être, pour les étudiants, d'inquiétude sur l'avenir, d'inquiétude sur les études, pour certains d'allègement, parce que ça, voilà, ça fait une pause, ça fait des vacances, enfin, quoique la demande scolaire continue, mais... Et pour les autres, il y a une grosse inquiétude sur l'avenir. Et pour certains, ça précipite un peu les décisions d'interrompre les études, de changer d'orientation. Et bon, on invite avec mes collègues, c'est important de ce moment de se questionner sur ce qui est important, sur ce qu'on veut vraiment faire de sa vie. Mais c'est bien de pouvoir en parler à quelqu'un et de ne pas précipiter une décision dans ce moment particulier.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que dans un certain sens, ça pourrait être bénéfique?
Il y a des effets bénéfiques, certainement. Il y a des effets de trauma, donc d'angoisse, de solitude, de sentiment de perte très important, d'anticipation de perte, bon, parce qu'il y a aussi des deuils qui sont en cours, qui ne peuvent pas se faire dans des conditions tout à fait normales. Mais il y a aussi une créativité, puisque ils s'inventent des façons d'être ensemble quand même. Ça permet un peu de franchir, d'aller un peu au-delà, pour certains, de ce dont ils se croyaient capables. Ils ne se pensaient pas capables de faire signe à leurs voisins, ils ne se pensaient pas capables d'appeler un tel ou un tel. Ils ne se pensaient pas capables d'un certain nombre de choses qu'ils découvrent. Donc, oui, ça fait découvrir, ça fait produire des choses nouvelles, c'est certain. J'ai un de mes patients qui découvre, qui n'était pas si isolé que ça, qui découvre le goût d'être avec les autres. Voilà, il y a des bonnes surprises.
Est-ce que vous observez une diversité dans les profils qui aujourd'hui vous appellent des personnes, ou au contraire, il n'y a pas grand changement, c'est assez homogène?
Alors bon, ça, on est un peu au début de la période. En tout cas, ça permet à des étudiants qui avaient un peu repoussé, qui savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui avaient un peu repoussé le moment d'appeler, ça lui décide. Parce que les symptômes s'accentuent, le confinement fait que être soit avec soi toute la journée, parfois c'est difficile à supporter. Voilà, ils disent qu'ils ne peuvent plus attendre pour appeler. Il y a ça. Il y a aussi ceux qui avaient peut-être une pente, une grande activité, un grand investissement, et qui découvrent que cet investissement, bah, c'est une façon de masquer des difficultés plus profondes. Et bon, pour certains, ça va même jusqu'à des idées noires qu'ils n'avaient jamais aperçues jusque-là. Et voilà, ils appellent. Donc, il y a ces personnes-là qui appellent. Il y a ceux qui sont malades, qui sont angoissés aussi dans cette situation d'être malade. Il y a ceux qui aussi prennent des décisions de ne pas, par exemple, poursuivre un travail étudiant qu'ils avaient commencé parce que les conditions de sécurité ne sont pas respectées et qu'ils ne veulent pas contaminer les autres. Donc, ça, il y a des moments, des mouvements comme ça très personnels et importants. Donc, je pense aussi qu'il y en a peut-être qui n'osent pas appeler parce qu'ils pensent que, bon, ils ne sont pas bien, mais étant donné ce qu'on entend aux infos, il y a plus grave, il y a des gens qui sont en plus grande difficulté. Et donc, si cette émission peut servir à quelque chose aussi de ce côté-là, c'est bien qu'ils s'autorisent à appeler parce que on est des professionnels, on se sert la part des choses avec chacun de ce qui se passe pour lui et surtout permettre de retrouver les ressources qui vont faire franchir le moment. On a le droit de se sentir mal quand on est confiné. Même si on est dans des bonnes conditions, voilà. Vraiment, on invite tous ceux qui se sentent mal à nous appeler. Et il y a quelque chose aussi que cette situation amène à mettre un peu au jour, c'est que finalement, il y a une certaine aisance, pour une part, dans ce phénomène qu'on appelle de distanciation sociale et de mise en relation par les réseaux. Tout le monde est, enfin, la plupart, beaucoup sont sur les réseaux, mais peut-être que c'est important d'être attentif aussi et au fait que finalement, il y a en arrière-plan une tendance quand même à la phobie sociale. Des pays comme la Corée du Sud, par exemple, l'ont remarqué parce qu'ils ont des dispositifs qui font que les gens sont amenés à se rencontrer le moins possible. Les livreurs déposent leur livraison dans des endroits sans rencontrer la personne à qui ils livrent, etc. On veut bien avoir un contact avec l'autre par voie virtuelle, mais sur le plan réel, c'est plus dur. Donc, bon, que cette période, c'est aussi un moment important de mobilisation d'un appel à l'autre, de l'importance des relations avec les autres. Ça soulève aussi la question de la façon dont on se met en lien avec les autres. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Daniel Olive, d'avoir accepté cet échange. Donc, si vous souhaitez entrer en communication avec docteur Olive ou d'autres collègues, du lundi au vendredi de 9h à 17h30, ça se passe au 02 99 30 80 24, le 02 99 30 80 24, ou le week-end de 14h à 18h au 07 66 20 80 23, le 07 66 20 80 23. Merci.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.